Dans le cadre de la programmation Sous le signe d'Averroès, à l'occasion des rencontres d'Averroès, l'Institut méditerranéen de recherche avancée, INERA, proposait le 7 novembre dernier une table ronde intitulée « Sortie de crise », animée par Thierry Fabre. Tout au long de cette semaine, nous allons vous donner à entendre de larges extraits de ce débat, accompagnés d'interviews réalisées à l'issue de celui-ci.
Alors, pour parler de tension, peut-être de dépassement aussi, un regard sur les crises, pour commencer sur un angle un peu plus politique, Jean-Pierre Fihu, puis Mohamed Tozzi, et ensuite on passera à la géographie et enfin à l'histoire. Jean-Pierre Fihu.
Oui, merci Thierry, merci à vous tous, merci à l'IMERA de me donner le privilège de parler aujourd'hui de la crise et peut-être... de ces sorties, après avoir passé la plupart de mes années de vie adulte dans des pays en crise, ou quand j'étais en France des heures innombrables dans des cellules de crise, alors je vous préviens...
C'était au Quai d'Orsay, c'est ça?
Ce n'était pas qu'au Quai d'Orsay, les cellules de crise sont interministérielles. La crise est tout de suite interministérielle. On cherche souvent des volontaires pour les cellules de crise.
C'était déjà transdisciplinaire.
Des écoles s'affrontent pour savoir s'il faut traiter une crise à chaud ou pas. Mais ce qui est certain, c'est qu'il faut toujours mieux sortir d'une crise par le haut. Actuellement, j'ai le bonheur de donner aux côtés de Gilles Kepel un cours en master à Sciences Po. Le cours a le même nom, il s'appelle « La crise au Moyen-Orient ». Nous changeons toujours la première leçon en fonction de la crise qui s'est déroulée pendant l'été précédent. Et donc, je voulais...
État de crise permanent, le titre n'était pas si mal choisi, je crois. Voilà.
Je voulais commencer par une image assez sinistre et un humour assez noir. L'image sinistre, c'est le siège de Beyrouth-Ouest en 1982 par l'armée israélienne et certains salons qui se réunissaient de l'autre côté de la ligne de démarcation le soir pour sabler le champagne et regarder le feu d'artifice des missiles qui tombaient sur les horribles Palestiniens reclus de l'autre côté, l'idée que la crise des uns fait le bonheur des autres. Pour l'humour carrément noir, voire un peu grossier, l'hebdomadaire satirique Jueves en Espagne a, lors de l'annonce par l'État de la rupture de la trêve, publié une série de cartes postales qu'on pouvait envoyer possiblement pendant l'été 2006. Alors on avait un attentat à Benidorm, on avait un autobus qui sautait sur la Costa Brava, etc., etc. Du côté là, la crise des uns n'est pas forcément le tourisme des autres. Mais si on reste toujours dans le tourisme, ce qui est très frappant, et on l'a vu dans le Sinaï, malgré les attentats suicides qui ont ensanglanté la péninsule en 2004-2006, que ça n'affecte pratiquement plus le flux touristique. C'est-à-dire que, en fait, la population touristisante accepte une partie de la crise, en tout cas sa forme la plus virulente, qui est le terrorisme, comme un risque au même titre que les avions en retard, les intempéries et autres désagréments. Parlant de la Méditerranée, ma conviction, qui est sans doute partagée ici, est que la crise principale n'est pas une crise nord-sud, mais qu'au contraire, nous assistons à la cohabitation, à la coexistence dans un même espace, deux zones de crise plus ou moins ouvertes, plus ou moins violentes, et d'espaces de prospérité, de stabilité, ce qui donne parfois un peu le tournis, ou en tout cas un certain malaise, qui n'est pas sans rappeler ces scènes de Beyrouth pendant les soirées chaudes de l'été 1982. En effet, même si apparemment le gouffre majeur et la raison majeure de crise est le différentiel de 1 à 15 de niveau de vie de part et d'autre du détroit de Gibraltar, on se rend compte qu'en fait, les crises fonctionnent pas immédiatement et pas forcément sur le schéma nord-sud. Je ne rappellerai pas Sarajevo, 2 heures d'avion de Paris, comme on disait dans les médias français. Le siège a quand même duré 1000 jours. Et on s'est rendu compte, finalement, et on aura peut-être l'acte final bientôt avec le règlement de la question du Kosovo, qu'il s'agissait d'un cycle de décomposition, recomposition à l'intérieur de l'espace de l'ex-Yougoslavie, qui, assez étrangement, avec le recul, n'a absolument pas eu de contagion sur l'espace environnant. La crise est restée contenue. Elle a été absolument abominable, mais elle est restée contenue malgré les craintes qu'on avait, par exemple, du rôle de la minorité hongroise comme facteur de déclenchement et en chaîne d'une crise régionale. Alors, comment peut-on essayer d'expliquer, en quelques minutes, comment coexistent ainsi des zones de crise virulente et des zones de prospérité stabilisées ? Et alors là, il y a trois explications fausses ou faussées que je vais donc jeter en pâture et avec fort peu de respect intellectuel. La première ressortirait de ce que j'appellerais le marxisme vulgaire, qui serait l'idée qu'il y a une gestion hégémonique de l'espace méditerranéen par une puissance impérialiste, évidemment, et que cette puissance impérialiste nourrit sa domination de la coexistence de ces différentes zones de crise et de non-crise, un peu comme la même puissance impérialiste sur le plan capitalisme gérerait la vulnérabilité sur le marché du travail pour s'asseoir la docilité de l'ensemble des travailleurs. La deuxième explication, c'est l'idée qu'après tout, les crises doivent aller jusqu'au bout, le bout étant la purification ethnique de différentes enclaves qui ainsi pourraient enfin exister côte à côte. Tout ça ne fonctionne évidemment jamais, vu que au-delà de toutes les questions morales évidentes, les purifications ethniques engendrent toujours d'autres guerres, car les purifications ethniques débouchent toujours sur des guerres à l'intérieur de l'ethnie qui est censée avoir été purifiée, comme faire l'histoire récente. Et il y a enfin une troisième thèse qui découle de la précédente, qui est la fameuse thèse du conflit de civilisation, qui a eu jusqu'en dans les années 90 comme pape le Samuel Huntington, et dans les années 2000, Ayman Zawahiri, confère ses discours mensuels répercutés par qui vous savez. Donc je n'essaierai pas de repousser de mes petites forces ces trois thèses que je qualifie peut-être légèrement de fausses, car si je pensais avoir une réponse, je serais frappé non plus de crise d'adolescence, c'est un peu tard, peut-être de midlife crisis, voire de crise mystique. Mais en revanche, je livrerai trois points à votre réflexion. Le premier, c'est que l'Europe n'est pas partie à la crise en Méditerranée. En revanche, elle est appelée à résoudre les crises. On le voit très bien, par exemple au Liban, avec son investissement majeur après la crise de l'été 2006, où elle a été appelée, sous des formes différentes, et à discuter par les deux protagonistes, où elle est frappée non pas par un des deux protagonistes, mais par le djihadisme salafiste, pour parler simple, qui voudrait bien voir une nouvelle crise se dérouler en y impliquant l'Europe. On ironise beaucoup sur le manque de volonté politique de l'Europe à résoudre la crise en Méditerranée. Déjà, l'investissement financier est un signe de volonté politique indéniable. Quand on dépense 1 milliard d'euros par an dans les territoires palestiniens, c'est qu'on a quand même une volonté politique indéniable. Et je constate qu'aujourd'hui, la seule personne qui négocie avec les Iraniens au nom de la communauté internationale pour essayer d'éviter une crise devant laquelle celle générée par l'invasion de l'Irak paraîtrait tout à fait mineure, cette personne, c'est Javier Solana, au nom de l'Europe. Le deuxième point, c'est que les zones de non-droit ont besoin de zones de droit, dans cet ordre, alors que souvent on le met dans l'autre. Les contrebandiers ont besoin de frontières, sinon, walou business. Donc, cette idée que, après tout, on devrait avoir un espace homogène, est assez, on va dire, exotique au point de vue de la réalité géopolitique locale. On voit même actuellement le Kurdistan irakien, qui est à la fois la seule zone de prospérité et de stabilité de l'Irak post-Saddam, en même temps une zone de relatif non-droit, vu que ce sont des autorités de facto qui ont été établies, qui pourrait redevenir la seule zone d'Irak qui exporterait la crise par le biais du facteur PKK, Pejak, etc., etc. Donc on est quand même là aussi dans un aspect assez contradictoire entre la crise, la non-crise, zone de droit et exportation de la stabilité. Le dernier point, c'est que après la chute du mur de Berlin, pour faire très simple, voire grossier, on a eu au Proche-Orient un empire structurant, un empire américain structurant, et je suis personnellement assez favorable aux empires structurants, surtout dans une région comme le Proche-Orient. On l'a vu après la guerre, ce qu'on appelle assez étrangement la première guerre du Golfe, qui était quand même la deuxième après 1 million de morts entre l'Irak et l'Iran, donc la guerre de libération du Koweït, on a vraiment eu un effort pour structurer la région autour du processus de paix lancé à Madrid entre Israël et les Arabes. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est un empire du chaos, pour faire simple. Hein. Un empire du chaos, un vrai empire révolutionnaire, vu qu'il met à peu près tout par terre pour essayer de faire apparaître une nouvelle réalité dont vous voyez le témoignage tous les soirs sur vos postes de télévision. Alors, est-ce qu'on va revenir à un empire structurant ? Et à ce moment-là, on verra que la question sur Méditerranée, zone de crise, peut totalement changer de réponse si l'empire devient structurant. On va le savoir assez vite. On le saura même probablement à la fin de ce mois à Annapolis, dans le Maryland. En clair, si on retrouve la voie vers un État palestinien, vers la coexistence pacifique entre un État israélien et un État palestinien enfin institué, on se rendra compte que cette supposée fatalité de crise dans la zone méditerranée, elle ne va pas soudain disparaître, mais elle retrouvera un sens tout à fait différent.
Vous écoutiez Jean-Pierre Figu, professeur à l'Institut d'études politiques de Paris, qui intervenait dans la table ronde « La Méditerranée, un état de crise permanent », animé par Thierry Fabre. Voici maintenant une courte interview de Betul Tanbay, mathématicienne. La science est-elle aussi en crise ?
Betul Tanbay, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes mathématicienne, je crois.
Je suis mathématicienne.
Vous avez tout à l'heure, dans votre intervention, expliqué que la science était en crise et vous avez donné une sorte de personnage ou de date clé dans cette situation de crise, qui était le théorème d'incomplétude de Gödel. Peut-être quelques mots pour nous expliquer de quoi il s'agit.
Disons que je n'ai pas dit que la science était en crise. La question était sortie de crise et je crois que les mathématiques ont déjà passé leur grande crise avec Gödel, qui a su d'un côté montrer que on peut pas, un système mathématique ne peut pas montrer sa propre consistance, ce qui veut dire que ça pose le problème de la limite, si vous voulez, en vulgarisant un peu, qu'il faut parler dans des contextes, il faut d'abord mettre sur page les axiomes qu'on a, et puis dans ces axiomes, utilisant la logique, avoir les résultats. C'est ce qu'on ne fait pas du tout, ni en politique. On ne se met pas dans des contextes et on croit à la toute-puissance. Et ce que je voulais dire, c'est que la toute-puissance, même en mathématiques, n'existe pas. Ça m'étonnerait que ça existe en politique.
Est-ce qu'à votre avis, le plus critique dans le domaine de la science, c'est cette incertitude qui est évoquée au travers de ce théorème de Gödel, ou est-ce que c'est l'excès de certitude ?
En politique, je crois que notre grand problème, c'est l'excès de certitude. Regardez tout ce qui est fait au nom de la démocratie. Je crois qu'il y a beaucoup trop de certitudes. Si on se posait un peu plus de questions, on serait moins envahissant.
Merci, Betul Tanbay.
Vous écoutiez Betul Tanbay, mathématicienne, professeure à l'université Boazici d'Istanbul. Rendez-vous demain, 9h45, pour la suite de ces chroniques sorties de crise.